Alors du coup moi j'ai commencé enfin actuellement du coup je suis en BTS informatique au lycée Paul-Louis Courier. Donc voilà. Et sinon à côté de ça sinon je suis plongeur dans un restaurant donc le vendredi et le samedi soir, voilà, pour payer les études et etc.
C'est important de le préciser, on l'évoquera aussi un peu plus tard, le fait de jongler entre études et travail à côté, parce que c'est aussi une des thématiques importantes du monde étudiant. Rachel?
Bah moi je suis en L1 d'histoire au Tanner du coup, mais c'est tout.
Et pas plongeuse à côté,
Et non.
je sais pas si ça se dit d'ailleurs, plongeuse ou
Si, si.
plongeur, ça se dit. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de solidaire étudiante, déjà dire un peu ce que c'est et nous parler de votre fonction? J'ai entendu dire hors antenne qu'il n'y avait pas de fonction en fait dans solidaire étudiante. Qu'est-ce que solidaire étudiante?
Alors Solidaire étudiante, du coup, c'est un syndicat. Donc c'est un syndicat comme on peut l'entendre un peu partout, c'est-à-dire comme la CGT, etc. Nous, on fait partie d'une fédération qui s'appelle Sud. Donc il existe plein de Sud. C'est ce qui est important en fait dans Solidaire étudiante, c'est que on a à la fois il y a, par exemple, dans la région Centre, il y a Sud Michelin, il y a Sud Rail, etc. Et donc nous, on fait partie de toute cette organisation-là. Donc voilà, je pense que c'est important de le préciser pour les fonctions, Rachel,
Bah
si
en
tu
fait,
veux.
on a un syndicat autogestionnaire, donc on fonctionne par mandat. C'est-à-dire qu'on se mandate pour, bah, par exemple, pour venir ici. On a voté, en fait, et ouais, on fonctionne que comme ça. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie ou de poste.
Vous avez voté, c'est tombé sur vous ou c'est
Non,
vous qui vous êtes
on s'est
porté
proposé, nous.
proposé?
Ouais.
D'ailleurs, tu l'as évoqué tout à l'heure, ça, en fait, le Solidaire étudiante vient de la fusion de la Fédération syndicale étudiante et du Sud, c'est ça, en 2013. Donc c'est la création finalement de cette structure qui a maintenant 4 ans en fait.
C'est ça.
Bon, très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres syndicats étudiants et finalement pourquoi avoir rejoint ce syndicat-là?
Bah, en gros, comment expliquer? En fait, il y a donc l'UNI, l'UNEF et Solidaire étudiante. Et après, je pense que ça dépend aussi de ses convictions politiques. Disons qu'on est toutes et tous plus ou moins quand même d'extrême gauche. Donc c'est vrai que pour nous, Solidaire étudiante, ça convenait quand même plus à nos idées, en fait.
Pareil, le même point de vue
Le même point de
pour
vue,
toi, Alex.
c'est ça, c'est pas du tout les mêmes thématiques qui sont abordées. Si on, enfin, nous, quand on pense à l'Uni, etc., on pense sélection, c'est un syndicat, j'emploierai des gros guillemets, mais voilà, c'est une structure du coup qui encourage à la sélection. Et l'UNEF, c'est pareil, une structure qui est assez bancale sur certaines thématiques et qui en fait ne, bah, par exemple qui n'a pas notre comportement, enfin notre attitude autogestionnaire dans la prise de décision, etc. Donc c'est aussi pour ça que moi j'ai rejoint un Sud.
Oui, parce que c'est aussi un engagement politique, le fait de se syndiquer. D'ailleurs, il y a très peu d'étudiants syndiqués en France. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous syndiquer? Est-ce que c'est aussi par rapport aux conditions étudiantes qui sont peut-être un peu précaires parfois?
Bah oui, en fait, il y a plusieurs raisons. Enfin, moi, personnellement, c'est déjà parce que je voulais rejoindre une structure qui est organisée pour militer, en fait, parce que militer tout seul dans son coin, c'est quand même plus compliqué. Puis oui, aussi, quand on arrive à la fac, on voit. Donc oui, des signes de précarité étudiante, on voit au niveau des logements, du travail en parallèle des études, tout ça, forcément ça nous fait réagir. Et on voit que le syndicat, justement, c'est une structure qui est adaptée pour lutter justement contre ces conditions de vie qui sont pas adaptées pour des étudiantes, même pour personne.
Mais pareil pour moi, du coup, c'était. Enfin, j'ai commencé à me politiser un petit peu avant la fac, enfin, ma première année de fac, du coup, maintenant je suis en BTS, mais j'ai commencé à me politiser à ce moment-là, et puis je voulais vraiment rejoindre une structure ça organisée, avec un mode d'organisation qui me plaît, et solidaire, au final, bah, je les ai rencontrés, juste, ils m'ont donné un tract, c'était mes idées, j'ai fait une réunion, j'ai vu que c'était comme ce que je voulais que ça soit, et donc, bah, j'ai rejoint, quoi.
Alors justement, Solidaire étudiante, c'est un syndicat, je reprends les termes de définition sur le site internet notamment, syndicat de lutte et une fédération de syndicats étudiants de lutte. Bon, je répète ce mot lutte, mais parce que pour moi il est important. Qu'est-ce qui signifie pour vous ce mot lutte au travers de ce syndicat étudiant?
Le mot lutte, en fait, je trouve qu'il est assez important, c'est-à-dire que pour régler par exemple certains problèmes à l'université, on va avoir plusieurs paliers. Par exemple, c'est-à-dire directement, par exemple, aller voir l'administration, aller voir enfin essayer de faire ça, de faire marcher entre guillemets les contacts qu'on peut avoir pour régler le problème. Mais si à un moment, par exemple, bah, comme dans tout syndicat, il faut faire une grève, il faut faire une mobilisation, des manifestations, il faut, j'utiliserai pas le terme imposer, mais il faut faire avancer les choses quoi qu'il arrive. Et dans ce cas-là, il n'y a que la lutte qui fonctionne, de mon opinion.
Et alors du coup, quelle sorte de lutte? Qu'est-ce que propose Solidaire étudiante pour lutter justement? Et lutter contre quoi d'abord?
On a plusieurs thématiques à défendre. Bah, donc, par exemple, déjà, c'est un syndicat aussi de lutte des classes. Mais c'est aussi un syndicat antisexiste, antiraciste, antifasciste. Enfin, la liste est longue, hein, mais on défend plusieurs thématiques différentes. C'est vrai que c'est très varié aussi.
Oui, donc c'est pas que que l'étudiant en tant que tel et ses conditions en tout cas d'études. C'est beaucoup plus large que ça.
Ouais.
Alors du coup, comment est-ce que vous luttez? Est-ce que ça passe par des manifestations? Est-ce que ça passe par des grèves, des pétitions? Je sais pas, expliquez-moi un peu comment lutte Solidaire étudiante.
Bah moi je viens d'arriver cette année, donc après je peux parler que depuis septembre, quoi, mais je sais qu'on a déjà, ouais, on a déjà pas mal bossé, on a participé aux manifs. Donc contre la loi travail, contre la réforme de l'enseignement supérieur, tout ça, enfin on prend part, quoi. Et après, donc oui, on essaie de diffuser, on tracte, on essaie de sensibiliser les autres étudiants et étudiantes. On essaie de discuter avec les profs aussi. Donc, ouais.
C'est ça, en fait. La lutte, du coup, ça renvoie en fait à tout un vocabulaire qui est peut-être ancien, qui est peut-être un peu folklorique, etc., mais qui reste néanmoins intéressant. C'est-à-dire, oui, effectivement, les grèves, les blocages, on a pu le voir pendant l'année dernière, pendant la première loi travail, quand Macron était ministre de l'économie. Les militants et les militantes de Solidaires étudiantes ont participé à ce mouvement-là, etc. Donc ça comprend tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire manifestation, manifestation sauvage, occupation de la fac, voilà, ça comprend toutes ces choses-là, etc. Et je pense que c'est important de le soulever, en tout cas pour ce syndicat-là.
Au niveau local, donc à Tours, parce qu'il faut le rappeler aussi, Solidaire étudiante, il y a 30, c'est ça, une trentaine de structures en France différentes, donc il y en a une évidemment à Tours. Au niveau local, qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que vous luttez aussi pour seulement pour les étudiants de Tours, ou c'est à chaque fois dans une vision plus globale et les étudiants plus généralement français?
Bah après, donc on a un travail au niveau national qu'on essaie d'appliquer. Donc par exemple, quand il y a des décisions qui sont prises au niveau national, nous on les applique à Tours. Mais on a aussi donc des prises de décision du point de vue local. Enfin, c'est vraiment les deux, en fait. On essaie de combiner les deux. On prend les avis de chacun au niveau national et puis on les applique à Tours. Voilà, on essaie de faire remonter aussi au niveau national. Enfin...
C'est exactement ça. Par exemple, l'année dernière, il y a une campagne contre la transphobie qui a été votée au niveau national. Et donc, on a reçu les affiches, etc. Et on les a affichées. Je pense qu'il y a pas mal d'étudiants et étudiantes de Tours, surtout au Tanner, qui ont vu ces affiches, qu'un étudiante... trans sur 5 quitter ses études à cause de la transphobie, donc de l'oppression envers les personnes trans. Et par contre, à côté de ça, nous, on peut, de façon locale, demander la baisse du tarif de fil bleu, par exemple, etc. Donc du coup, ça s'articule vraiment sur les deux plans.
Alors j'imagine, du coup, vous communiquez entre les structures, les différentes structures, pour mettre en place finalement un plan national, je dirais, et pour se mettre d'accord sur les grandes thématiques. Comment ça se passe un peu cette communication entre les réseaux et en tout cas les structures solidaires étudiantes?
Il y a le congrès, moi j'y suis jamais allée, donc peut-être mieux que t'en parles.
Alors du coup je suis allée à un congrès, donc en fait ça s'organise sur deux moments. Donc les congrès, c'est vraiment les moments où on vote, on prend des décisions importantes, on se forme aussi, il y a beaucoup de formations en solidaires étudiantes, et c'est d'ailleurs, je pense, le plus important. Et à côté de ça, au jour le jour, il y a une trentaine de mails qui sont envoyés, donc dans la boîte mail du syndicat ou dans la boîte mail des personnes à l'intérieur du syndicat, par exemple sur des sujets très précis. Par exemple, il y a une liste mail non mixte, donc que pour les femmes, en tout cas que pour les non mecs, que pour les non mecs.
Et pour quelle raison du coup il y a cette liste de mails non mixtes?
Ah bah Rachel.
Bah il y a des thématiques, disons, qu'on peut pas discuter avec des personnes qui sont donc des mecs cis.
Définis.
Ouais, donc les mecs cis, c'est les mecs qui sont en accord avec le genre qu'on leur assigne à la naissance. Donc justement, nous, dans une. Il y a des thématiques qu'on ne peut pas aborder avec eux. Parce que déjà, ils vivent pas les mêmes oppressions que nous, en tant que non-mecs cis. Et des fois, ouais, ça peut être compliqué de parler avec des mecs cis de certaines thématiques. Ouais. Donc on prend le devant, en fait, direct, on fait des réunions ou des listes de mails non mixtes. Parce que comme ça, bah, il n'y a pas de problème, en fait.
Mais est-ce que vous n'avez pas des remarques justement qui vous disent ouais mais du coup vous êtes c'est un peu sectaire, c'est un peu discriminatoire aussi
Bah
dans
non,
ces...
ouais. Non, pas vraiment solidaire, parce que bah, en fait, la non-mixité, c'est vraiment un outil politique. C'est pas dans le but de reproduire une espèce de sexisme anti-mec, parce que ça existe pas, le sexisme anti-mec. En fait, ici, le sexisme, enfin, c'est vraiment institutionnel. Là, on reproduit rien d'institutionnel. C'est vraiment. On se simplifie. Enfin, non, c'est pas simplifié, mais parce que ouais, c'est quand même galère, mais. Comment dire? Ouais, c'est nécessaire de toute façon, il y a des thématiques qu'on ne peut pas aborder avec des mecs cis, et du coup voilà.
Au niveau international aussi, on parlait du niveau national et puis local. En fouillant aussi sur le site internet, j'ai vu que Solidaires étudiants s'engage aussi à défendre les étudiants étrangers. C'est notamment, je suis tombé sur un article qui parle de rafles étudiants en Égypte. Est-ce que quel est le rôle et en tout cas quelles sont les actions à l'international de Solidaires étudiantes? Il y a aussi des réseaux à l'international en Suisse, en Italie, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que vous pouvez m'en parler de ce que fait Solidaires étudiantes pour l'international?
Je pense que pour l'international, déjà, il y a deux plans. Donc oui, effectivement, on a des syndicats qui sont associés à notre fédération en Espagne, en Belgique, en Italie, par exemple. Mais aussi, par exemple, il y a eu une action qui a été faite il y a 2 ans. C'était des livres pour Rojava. Et donc, en fait, ça consistait du coup à faire une bourse aux livres pour les étudiants et étudiantes qui étaient là-bas, etc. Donc dans un pays en guerre. Voilà, enfin, c'est pas humanitaire, mais voilà, c'est une solidarité internationale envers tous les étudiants et étudiantes. Et aussi, du coup, sur le plan local, c'est accompagner aussi les étudiants et étudiantes qui veulent s'inscrire à l'université en France, alors que, par exemple, elles n'ont pas les papiers ou elles ont des difficultés, du coup, pour les obtenir, pour avoir un logement, etc. On a eu pas mal de cas, etc., comme ça, par exemple. Enfin, je m'étais occupé d'un cas avec un autre camarade d'un étudiant algérien qui voulait s'inscrire en fac de sciences à Tours. Et oui, donc c'est une vraie guerre contre l'administration qu'il faut mener, etc. Mais enfin, des fois ça marche et des fois ça marche pas. Mais dans tous les cas, on fait du mieux qu'on peut pour que y ait pas de frontières entre tous les étudiants, quoi.
Quelle est, selon vous, la plus grosse difficulté que rencontre un étudiant au sortir du bac ou alors un étudiant étranger? Est-ce que c'est la recherche de logement? Est-ce que c'est les bourses? On parlait tout à l'heure de concilier emploi et études parce que effectivement, pas tous les étudiants ont les moyens de vivre à côté ou en tout cas de subvenir pardon, à leurs besoins pendant leurs études. Quelle est pour vous la plus grosse difficulté que rencontre l'étudiant aujourd'hui?
Je pense que ça dépend vraiment de l'étudiant. En fait, c'est difficile à dire parce que ben, il n'y a pas un profil d'étudiant ou d'étudiante qui. Ouais, non, il n'y a pas de profil unique. Et je pense que ouais, ça dépend vraiment d'où tu viens déjà, enfin, forcément. Puis ouais, après, les logements, c'est vrai que ça devient difficile là parce enfin, y a de plus en plus d'étudiants qui entrent dans le supérieur, mais il n'y a toujours pas d'augmentation pas de vraie augmentation des résidences Crous en fait. Donc c'est vrai que ça devient compliqué, mais aussi au niveau des bourses, là on baisse les APL,
Oui,
ça
c'est
devient
vrai
compliqué là.
qu'on en a beaucoup parlé de ces 5 euros d'APL en moins, ce qui correspond à 60 euros à peu près l'année. C'est aussi une thématique que vous défendez, j'imagine, en tant que syndicat étudiant.
Oui, bien sûr, enfin, le côté matériel, le côté financier, il est assez important en fait en soi, parce que Rachel pourra me redire le nombre, mais c'était le budget moyen d'un étudiant, il me semble que c'est dans les 600,
180.
680 euros,
Moi.
le budget par mois.
Et c'est sous le seuil de pauvreté aussi,
C'est ça, le
qui est
seuil.
à 780, quelque chose comme ça, ou autour des 800 euros,
C'est
de
exactement ça.
mémoire en tout cas.
Oui,
Ouais.
c'est exactement ça. Donc tous les étudiantes de France vivent en dessous, en fait, en moyenne, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Si on rajoute à ça, par exemple, nous à Tours, le tarif fil bleu qui est à 28,80 € pour les étudiants, il me semble. J'ai arrêté de le prendre du coup, donc je sais plus où sont les augmentations. Le loyer d'une chambre étudiante, ça reste 250 € par mois. À cela, il faut rajouter peut-être les frais d'inscription à l'université, il faut rajouter les frais médicaux, il faut rajouter plein de choses en fait, enfin tous les petits tracas de la vie et qui font que au final ça devient très difficile enfin, de vivre décemment.
Solidaires étudiantes à Tours, c'est combien d'étudiants syndiqués? Vous êtes combien? Et quelles sont les conditions pour vous rejoindre?
Bon,
J'imagine qu'il y a, il y a des conditions un peu
on est
particulières.
10-15 à peu près.
Oui, 10-15 militants et des sympathisants
Ouais.
aussi qui n'ont pas pris leur carte ou qui n'ont pas envie non plus de militer mais qui nous soutiennent, oui.
Après, au niveau des conditions, il n'y a pas vraiment de conditions en soi. Après, évidemment, il faut que les personnes soient en accord avec nous, nos valeurs, enfin les valeurs du syndicat, avec ce qu'on défend, ce contre quoi on se bat. Mais c'est vrai qu'en soi, à partir du moment où la personne est d'accord avec nous et où la personne ouais, accepte les critiques, le débat, tout ça, c'est pas vraiment de conditions posées, quoi.
Une quinzaine, c'est faible, non, comme chiffre?
En soi, oui, c'est assez faible par rapport à tous les étudiantes, etc. Mais le niveau de politisation de l'université n'est pas celui qui, où, comme il y a 40, 50 ans. Donc, c'est faible, mais mine de rien, on a quand même une grosse augmentation. C'est-à-dire que l'année dernière, on était vraiment pas très nombreux, c'est-à-dire peut-être 5-6 constamment en réunion. Alors que là, cette année, enfin, ce dernier mois, on a pu faire des réunions à 20, par exemple. Donc, et même le local syndical devenait trop petit en fait pour accueillir tout le monde. Donc, enfin, on est sur une excellente pente ascendante quoi, au niveau en termes de membres.
Est-ce que vous êtes prêt maintenant pour le quiz? C'est devenu un peu une tradition d'en sortir. Je pose quelques questions sur le sujet, évidemment, aux invités. Donc je mets le petit jingle et on est parti pour le quiz. Est-ce que vous êtes prêt? Oui? La voix tremblante ne dit rien de bon, mais... Première question, est-ce que vous savez à quand remontent les premiers mouvements étudiants à proprement dit en France? Environ, hein, parce que c'est vrai que ça remontait un petit moment, on n'était pas nés, hein, je pense pas trop me tromper en disant ça. Est-ce que vous savez à peu près quand c'était?
Moi, je serais tenté de dire 68, mais j'imagine que c'est bien avant, du coup.
C'est bien avant, oui, bien avant.
Ouais, les années 50, je sais pas.
En fait, ça se compte même en siècles. Les
Merde.
premières traces de mouvements étudiants remontent à 1443. Et en fait, à l'époque, c'était la Sorbonne. Bon, évidemment, c'est un système universitaire bien différent d'aujourd'hui, on va pas se le cacher. Mais les étudiants de la Sorbonne avaient fait 9 jours de grève et après, 2 ans après, avaient fait 6 mois de grève. Voilà, donc c'est un peu les premières traces, en tout cas en France, de mouvements étudiants. Deuxième question. Évidemment, il y a eu ce fameux mouvement étudiant du 22 mars, donc qui préfigure le fameux mai 68 en France. Mais de quelle faculté est parti le mouvement? Ah
Ah, c'était. Et c'est même pas une fac de Paris, il me semble. C'est Strasbourg? Non.
non, alors effectivement, c'est pas une fac de
C'est
Paris,
pas une fac
mais
de Paris.
c'est. Parfois, on a tendance, on se trompe en disant la Sorbonne, ou en tout cas, on a cet imaginaire collectif qui dit Sorbonne, dit mai 68, mais en fait, le mouvement initial, en tout cas, étudiant, je le répète, ne vient pas de l'université de la Sorbonne.
T'as une ville en tête?
Non, pas du tout.
C'est pas loin de Paris, hein, c'est à côté, c'est Nanterre, la faculté de Nanterre.
D'accord.
Alors, troisième question, celle-là, elle est dure aussi. En quelle année a eu lieu le projet de loi Devaquet? Alors, le projet de loi Devaquet, c'est intéressant, on y reviendra tout à l'heure, parce que c'était aussi un projet de loi pour augmenter les sélections de l'université française. En quelle année a eu lieu ce projet de loi? Qui a été abandonné, hein, je le précise.
Alors, je crois savoir, parce que ma maman a fait la grève, il me semble, quand elle
Ah.
était étudiante, à
Alors.
Tours, en histoire, en plus.
Et
Je crois que
alors?
c'est 81. Non, bah non, pas du tout, pas cet âge-là. Ça devait
On
être,
n'est
du
pas loin,
coup.
hein.
Ouais.
Alors,
Non,
on
elle était
est...
au lycée, du coup. Donc c'était 86, quelque chose comme ça.
Yes, bingo.
86.
86, effectivement, 1986. Alors, il avait été présenté en début d'année, ce projet de loi. Il a été abandonné le 8 décembre. Et il faut aussi dire, il y a eu des heurts, ou en tout cas des manifestations un peu violentes, et il y a eu un mort qui a certainement fait aussi peser la balance dans cette prise de décision. Quatrième question, est-ce que vous connaissez le nombre d'étudiants en France en 2017? Enfin, cette année scolaire.
Non.
Le nombre d'étudiants tout compris, hein. C'est-à-dire université, BTS, enfin toutes les filières, tout réuni. Combien?
5 millions, ça me paraît beaucoup quand même.
Je sais pas. Non, je sais pas du tout.
On doit autour de 600 000.
Ah, c'est plus.
C'est beaucoup plus.
C'est oui, c'est plus. C'est beaucoup plus.
2 millions, ouais, c'est le juste prix.
Un petit peu plus. Ah. C'est, on n'est pas loin, on n'est pas loin.
2 millions 5 ?
Ouais, c'est, en fait, c'est 2,61 millions de jeunes cette année, et il y a environ 40 000 étudiants de plus chaque année en France. Ce qui fait aussi, ce qui pose le problème des infrastructures et puis de tout ce qui va avec. On parlait des logements tout à l'heure, du Crous, etc. Dernière question, est-ce que vous savez le nombre d'étudiants syndiqués en France en pourcentage ? Environ.
Même pas 1%.
En pourcentage, il me semble qu'on tourne autour de 0,3 ou 4.
Alors moi, j'ai à peu près 1%, des chiffres qui datent de 2015, alors ça a peut-être évolué depuis, mais en tout cas, Rachel avait la bonne réponse. Et il faut aussi rajouter qu'il y a seulement 8% des étudiants qui participent aux élections étudiantes. Ça aussi, ouais. c'est un problème, ou en tout cas un chiffre assez faible. À titre de comparaison, alors évidemment, c'est deux choses différentes, mais le taux de syndicalisation des salariés en France, c'est environ 11%. Donc, on a quand même un taux de syndicalisation étudiant qui est relativement faible. Bon, bah voilà, vous n'êtes pas si mal tiré que ça du quiz. Non, mais les questions ne sont pas spécialement faciles, mais au moins, elles permettent d'éclairer un peu... sur ce sombre univers qui est le syndicalisme étudiant. On va passer tout de suite à la deuxième partie de l'interview. Est-ce qu'on pourrait évoquer, s'il vous plaît, le projet de loi Travail El Khomri ? Parce que j'imagine l'an passé, vous avez aussi mis des actions en œuvre pour lutter, ou en tout cas pour manifester contre ou pour d'ailleurs cette loi. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous avez fait l'an passé et ce que Solidaire étudiante a mis en place ?
Moi, je n'étais pas avec Solidaire à l'époque.
Alors, du coup, Alex, la responsabilité te revient.
Ouais. Donc, du coup, en fait, ce qui avait été mis en place, c'est qu'on avait décidé de faire de la com et de la mobilisation avant la première manifestation, qui me semble est celle du 9 mars. C'était ça, la toute première, celle qui avait bien fait bouger les choses. Donc, on s'y était mis 3 semaines à l'avance. Ça se comptait en milliers de tracts, en plein d'affiches, des réunions publiques avec des syndicalistes qui étaient venus à la fac pour expliquer vraiment ce que c'était que ce projet de loi. On a eu aussi pas mal... on a tourné dans tous les lycées, on a participé en tant que militant et militante. Du coup, on a participé à faire bouger un petit peu la fac, c'est-à-dire juste avant la manifestation, rentrer dans les amphis, faire en sorte que tout le monde se lève et vienne nous rejoindre. Et ensuite, pendant la loi travail, alors ça c'est un truc qu'on a décidé et tout seul à Tours, c'est que en fait on a décidé du coup de ne pas avoir de structure à part du mouvement, c'est-à-dire qu'il y avait le mouvement des étudiants mobilisés contre la loi travail, et à côté de ça on voulait pas en fait être une structure qui essayait de rentrer un petit peu dans le mouvement, on voulait pas tout ça, on voulait garder un petit peu notre conscience propre et là-dessus, enfin en plus c'était des sujets, il y avait des sujets pas mal clivants, donc voilà, on a mis le syndicat en pause pendant le mouvement pour être vraiment intégré en fait dans les autres militants et militantes.
Il y avait des sujets clivants, c'est vrai. Est-ce que vous-même dans Solidaire étudiant vous étiez d'accord sur tout, ou il y avait même des dissensions au sein du groupe par rapport à cette loi El Khomri qui a fait énormément de bruit, évidemment, beaucoup de manifestations et tout, et pas qu'à Tours, évidemment, dans toute la France.
Alors oui, déjà, en fait, au sein de Tours, on avait à peu près tous la même vision, c'était plus pour la forme, en fait, de la mobilisation. Par exemple, je vais donner des exemples un peu la con, mais ça va être... les heures de manif, est-ce qu'on fait manif là, qu'est-ce qu'on fait après la manif, etc. Mais sur la loi en elle-même, non, pour le coup, on était tous et toutes contre. On nous avait bien expliqué ce que ça voulait dire. On avait eu le décryptage de par des syndicalistes et par exemple des juges au prud'homme, etc. Donc ils connaissaient vraiment bien le sujet et au final, on s'est tous et toutes rendu compte que non, ça allait être désastreux.
Autre sujet que vous combattez, ou en tout cas où vous essayez de vous positionner, c'est la réforme de l'enseignement supérieur, de l'accès à l'enseignement supérieur. Ça a beaucoup changé en octobre. Début octobre, il me semble, si je ne me trompe pas, ils ont annoncé la fin des sélections à l'entrée de l'université. Et là, le 30 octobre, ça a aussi changé avec une annonce de cette réforme. Vous allez faire du coup le 15 novembre, si je ne me trompe pas, une réunion publique autour de ce sujet. Comment se positionne Solidaires étudiantes par rapport à ce sujet précis?
On est contre. Donc déjà, juste pour rappeler, donc on fait une séance à 17h au Tanner. Vous pouvez trouver l'événement sur Facebook. Donc si vous voulez venir voir pour qu'on en parle tous ensemble, voilà. Mais oui, sinon, on est globalement contre, on est entièrement contre la réforme de l'enseignement supérieur proposée par le gouvernement Macron. Ouais, c'est un moyen encore de... pas de précariser les étudiants et les étudiantes, mais de... Ouais, enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, ouais, la sélection, c'est encore un moyen de faire une différence entre différents types d'étudiantes. Par exemple, je sais pas, moi... ça va encore favoriser des gens qui viennent de milieux plus aisés. C'est... puis même le contenu en soi, de la réforme par rapport aux licences, par rapport... modulisation, puis même ce qu'on a par rapport, enfin qu'on a spécialement à Tours, c'est ouais, on est globalement contre.
Alors, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que il y a certains syndicats étudiants qui étaient plutôt favorables, qui sont plutôt, c'est notamment le cas de la FAGE, si je dis pas de bêtises, qui est plutôt favorable à cette réforme. Ce qui m'amène à dire, parce que évidemment la réforme elle est complexe et elle va instaurer aussi un plan étudiant, ça c'est Édouard Philippe, donc le Premier ministre, qui l'a dit, un plan étudiant qui vise à améliorer le logement, etc., et les conditions étudiantes aussi à l'université. Et il parle aussi de transfert du régime général de la sécurité sociale des étudiants sur le régime général. Ça c'est quelque chose que vous défendez, non ?
Alors oui, ça c'est totalement une de nos revendications, et donc du coup en fait c'est toujours, enfin ça c'est les techniques du gouvernement depuis mais des dizaines d'années, c'est toujours de nous donner le petit truc qui fait que...
Un os à ronger un peu.
C'est ça, un os à ronger sur tout un plat qu'on nous enlève en fait. C'est-à-dire que... je pense que les étudiants et étudiantes ont déjà eu affaire aux mutuelles étudiantes qui sont obligatoires. C'est des mois d'attente pour se faire rembourser, c'est des machines à fric en fait, alors qu'une mutuelle c'est vraiment pas censé servir à ça. Donc oui, en fait la suppression des mutuelles étudiantes plus le fait que les étudiantes et que les étudiantes n'ont plus à payer la cotisation la sécurité la cotisation la, le CSE donc cotisation sécurité étudiante, il me semble que c'est le mot, qui coûte 217 euros, mine de rien, ce qui est assez énorme. Mais voilà, à côté de ça, par exemple, on a du coup une plus grande professionnalisation de l'université. Rien n'est fait contre l'entrée des entreprises dans les universités. On a aussi aucune augmentation de place, alors que, comme tu le disais, il y a de plus en plus d'étudiants chaque année et il y a de moins en moins de place au final en termes de pourcentage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi une réforme d'APB. Donc APB qui marchait mais alors zéro avant et qui marche à moins maintenant, c'est-à-dire que on arrive sur un système où comment dire, déjà il y a plus de classement de vœux, donc du coup assez difficile à gérer pour toutes les personnes, pour tous les lycéens et lycéennes. Mais en plus de ça, maintenant la structure qui va faire la sélection au niveau de APB va avoir l'avis des professeurs principaux du lycée. Et donc, on s'attend du coup à une disparité énorme, par exemple entre les lycées de ZEP ou les grands lycées, les lycées privés, etc. Enfin, ça va encore plus augmenter les inégalités entre les personnes.
On a une autonomisation, c'est compliqué. Des facs aussi. Ce qu'on va voir, c'est que par exemple, la fac pourra décider de son programme, par exemple pour, la licence d'histoire, par exemple. Donc, du coup, le diplôme que t'auras eu à Tours aura pas du tout la même valeur qu'un diplôme que t'auras eu dans une grande fac parisienne, en fait. Donc, encore une fois, les facs de province vont être dévalorisées comparées aux grandes facs, quoi.
Alors, du coup, conséquence de tout ça, un peu, il y a une mobilisation le 16 novembre, donc en fait, le lendemain de cette réunion publique, de votre réunion publique. Est-ce que vous allez y prendre part à cette mobilisation le 16 novembre ?
Personnellement ou le syndicat ?
Les deux. Pourquoi pas les deux ?
Le syndicat, ouais, on doit y aller, ouais. On y sera. D'ailleurs, la manif, c'est à 10h à Liberté, il me semble. Il y aura probablement un rassemblement avant à la fac, donc si des étudiants, des étudiantes veulent venir avec nous, il n'y a pas de problème, on les accueille.
Sachant que du coup la réunion publique et les manifestations, du coup on avait voté en réunion qu'on la faisait avec le SNESUP,
ouais.
Qui est un syndicat de professeurs. Donc par exemple la semaine dernière on a eu une réunion avec donc on a eu une réunion solidaire étudiante et le SNESUP avec des profs de lycée, des profs de fac aussi. Qui réfléchissait à ça et qui trouvait juste ça vraiment scandaleux au niveau de ce qui allait se passer. Donc c'est pas que un combat d'étudiantes, c'est aussi un combat de profs, c'est un combat pour l'université, pour l'enseignement supérieur en général.
Oui, c'est vrai que ça concerne pour le coup aussi les professeurs, c'est bien de le préciser. Concrètement, est-ce que vous, Solidaire étudiante, apporte aussi des solutions, parce que être dans la lutte c'est une chose, mais est-ce que vous apportez des solutions à ces problèmes là en particulier dans l'enseignement supérieur?
La première solution, ça resterait quand même beaucoup plus de moyens, c'est-à-dire que l'université de Tours il me semble que c'est un budget de 260 millions d'euros par an pour gérer Tours, donc tous les bâtiments de Tours, plus Blois, parce que c'est rattaché à Tours. En plus de ça, il va y avoir une commune, alors comment elle s'appelle cette commune?
Léonard de Vinci.
En gros, c'est un regroupement de la fac de Tours et d'Orléans, donc qui vont avoir un budget partagé et vont devoir se battre chacun de leur côté pour avoir leur petit bout de truc. En plus, maintenant, on a une gestion de l'université par entreprise, c'est-à-dire que maintenant, c'est plus un budget alloué, mais il faut déposer un projet. Donc le projet, on a beaucoup vu ce petit cri de notre président, mais c'est totalement ça en fait. C'est un, en gros, imaginons que on veuille rénover un amphi, et bon, on pourra plus servir dans les fonds qui servent à la rénovation, etc. Faudra déposer le projet de rénover le truc, etc. Ça sera voté. Est-ce que les fonds vont tomber? On sait pas. Ça peut tomber au dernier moment. Donc un énorme manque de moyens. Enfin, la fac des Tanneurs, je dirais pas qu'elle est délabrée, mais il y a quand même des beaux trous dans les murs. Voilà, un gros, gros manque de moyens. Et puis, avec plus de moyens, on peut aussi embaucher plus de profs. On peut avoir des salles de TD, des amphis qui sont plus adaptés, etc. Donc pouvoir, en fait, permettre à tous les étudiants et étudiantes d'avoir des conditions d'études adéquates, en fait.
Merci en tout cas à vous deux d'être venus nous présenter. C'est déjà la fin de l'émission. Hein. On pourra malheureusement pas aller plus loin sur ce sujet qui est beaucoup plus large et qui aurait mérité plus d'heures d'antenne. On en profite pour rappeler quand même que le 15 novembre, il y a cette réunion publique. C'est où? Est-ce que vous pouvez brièvement dire?
C'est au Tanneur, la fac des Tanneurs. Donc je pense que les étudiants doivent voir à peu près. C'est la salle 302, il me semble. Mais 302, il y a un, oui. Si vous allez sur la page Facebook de Solidaires étudiants de Tours, on a partagé l'événement. Donc il y a tout qui est écrit.